Bonjour et bienvenue sur Jurygeek et compagnie, le podcast des enjeux du numérique pour le grand public et les entreprises françaises. Moi c'est Nathalie et à l'occasion du mois de la cybersécurité, je vous propose de faire le point sur l'assurance du risque cyber. Nous avons tous malheureusement déjà reçu des messages douteux avec des pièces jointes ou des liens qui sont piégés. Bien sûr, on ne clique pas dessus. Un virus pourrait chiffrer nos données et exiger une rançon. C'est ce qu'on appelle un rançongiciel. L'API d'ailleurs ne garantirait pas la récupération de l'intégralité de nos données. Cela peut même générer un risque majeur du point de vue de l'entreprise. En 2022, 40% des rançongiciels traités ou qui sont rapportés à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, touchent les TPE, les PME et les ETI. Or, la prise de conscience face aux risques cyber reste très hétérogène. En effet, le taux de couverture par contrat d'assurance cyber était l'an dernier de moins de 0,3% pour les PME françaises contre 84% pour les grandes entreprises. Il y a un an, la Direction générale du Trésor du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique publiait un rapport suite à une large concertation réunissant les acteurs du secteur de l'assurance. Elle y proposait un plan d'action pour développer l'assurance du risque cyber afin de renforcer la résilience du tissu économique français et aussi de clarifier les aspects réglementaires. Où en est-on en septembre 2023 ? Quel est le niveau de maturité du marché de l'assurance cyber ? Pouvez-vous compter sur votre assureur pour payer à votre place un rançongiciel ? Comment le risque cyber d'une entreprise est-il évalué et pris en charge ensuite par l'assureur. Pour répondre aujourd'hui à toutes ces questions, j'ai l'honneur d'accueillir Madame Estelle Guyon-Abinade. Diplômée d'HEC et du Centre de formation du Barreau, Estelle a débuté sa carrière dans un cabinet d'avocat international dans les domaines du droit des affaires et des fusions-acquisitions. Elle rejoint AXA France en 2005 en qualité de directrice juridique Corporate Finance et Yard. En 2012, elle devient directrice de l'audit interne, puis secrétaire générale d'AXA, particulier et Yard. En 2019, elle est nommée secrétaire générale d'AXA France et membre du comité exécutif d'AXA France. Bonjour Estelle, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour nous donner ton éclairage, ton analyse sur ces questions.
Bonjour Nathalie, je suis très heureuse d'être avec toi ce matin et d'être avec nos auditeurs. Alors, le niveau de maturité de l'assurance cyber. L'assurance cyber, c'est presque une des assurances les plus récentes. C'est très, très récent. Quand on pense que l'assurance incendie date à plusieurs centaines d'années, l'assurance cyber, on compte en années et probablement un développement dans les 5 dernières années où on a vu effectivement le développement des garanties cyber. Peut-être que avant de parler d'assurance cyber, on peut revenir sur ce qu'est un risque cyber. Parce que finalement, ça peut revêtir des formes très diverses pour les entreprises. Alors, la définition générale, ça serait de dire que c'est l'ensemble des risques qui sont liés à l'usage des technologies numériques et des technologies de communication. Et donc, ça porte sur la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité des données et des systèmes d'information. Et c'est très large, un risque cyber, puisque on peut parler aussi, ça peut provenir aussi bien d'une erreur humaine non intentionnelle, hein, par exemple quelqu'un qui télécharge involontairement un logiciel malveillant, d'un accident, mais ça peut aussi être une malveillance volontaire, par exemple l'attaque d'un hacker. Ça peut être une tentative de récupération d'informations confidentielles en se faisant passer pour une entité connue, ce qui s'appelle le phishing. Et puis, plein d'autres choses, l'interception de communications sur des réseaux Wi-Fi publics ou même l'exploitation de failles dans des logiciels. Et puis, dernière chose aussi, et je crois qu'on en parlera un peu plus tard, ce sont les rançongiciels. Donc, la grande majorité des sinistres cyber sont effectivement liés à une cyberattaque et on voit que ces cyberattaques sont en hausse croissante depuis 2019. Alors, si on revient maintenant, quand on a parlé de ces... Donc, quand on parle de risques, évidemment, on a envie de se prémunir contre ces risques. Et une des façons de se prémunir contre un risque, c'est de s'assurer. Sauf que, et tu l'as dit tout à l'heure, il y a encore très peu d'entreprises qui sont assurées contre le risque cyber. Autant les grosses entreprises commencent à être bien assurées, plus de la moitié, et c'est vraiment un chiffre en croissance. Autant sur les entreprises de taille intermédiaire, là on descend à 9% des entreprises de taille intermédiaire, des ETI, qui ont une assurance cyber. Et quand on va voir pour les PME ou les professionnels, les artisans, etc., là on est tout petit chiffre, 0,3%. Et ce qui est terrible, c'est que ce sont bien sûr ces petites entreprises qui ont le plus besoin d'être assurées, parce que ce sont elles qui n'ont pas les moyens, évidemment, à leur échelle, de développer un service informatique suffisamment robuste pour se prémunir contre tous ces fameux risques cyber.
Les attaquants, eux, visent des PME, des ETI, en sachant pertinemment qu'ils n'ont pas la ressource pour faire face aux risques cyber, en fait.
Les attaques cyber, les pirates, eux, se professionnalisent énormément, et que tu peux presque acheter en ligne des services pour réaliser une attaque cyber. Si tu vas sur le dark web, tu vois bien qu'il y a un déséquilibre entre une capacité d'attaque qui est de plus en plus sophistiquée, de plus en plus efficace, et un paysage de petites entreprises qui sont complètement démunies face à ça, parce que comme tu le dis, il n'y a personne qui est dédié et qui a cette capacité et cette connaissance suffisamment sophistiquée pour pouvoir mettre en place toutes les barrières contre ces attaques.
Qu'est-ce qui explique alors que ces entreprises soient démunies face aux risques cyber ?
En fait, je pense que le sujet, c'est presque pire que ça. C'est qu'en fait, elles n'ont pas conscience qu'elles sont à risque. La plupart des PME, ou des ETI, elles considèrent que soit elles ne réalisent pas qu'elles risquent de se faire attaquer, soit elles pensent qu'elles ne seront pas intéressantes pour des hackers parce qu'elles sont trop petites, parce qu'elles sont situées, par exemple, dans des endroits un peu isolés. Et donc, elles vont assimiler ça au fait qu'elles ne sont pas intéressantes pour des hackers. C'est exactement également, malheureusement, l'état d'esprit qui a longtemps présidé les administrations, les collectivités locales ou territoriales et les hôpitaux. Les hôpitaux considéraient que, mais qui viendrait m'attaquer ? Qui viendrait m'attaquer ? Et donc les hôpitaux n'ont pas du tout pris la mesure de ce risque. Et si tu ne prends pas la mesure de ce risque, tu ne te poses évidemment pas la question de savoir comment tu vas t'en protéger ou comment tu vas t'en assurer. Alors néanmoins, cette assurance cyber, c'est un marché en croissance. Le volume des primes, par exemple, entre 2019 et 2021, a augmenté de 115%, c'est-à-dire a fait plus que doubler. Et également, ce qu'on remarque, c'est que l'essentiel du risque cyber est maîtrisable. Notamment, ce que dit le rapport, un rapport qui a été publié par la Direction générale du Trésor, remarque que 97% des sinistres qui ont été payés en 2021 au titre d'attaques cyber ont donné lieu à une indemnisation de moins de 3 millions d'euros. D'où l'intérêt vraiment de se couvrir.
Donc concrètement, l'assurance en risque cyber va couvrir quel type de pertes par exemple ?
Eh bien, ça couvre les dommages aux biens qui sont consécutifs à des atteintes de systèmes d'information et de communication, et également les pertes pécuniaires qui sont consécutives à ces atteintes. Ce qui veut dire que, typiquement, une entreprise qui va être attaquée, eh bien, elle va pouvoir être couverte à la fois contre, par exemple, le vol des données clients, mais également si l'entreprise ne peut pas fonctionner pendant un certain temps parce que tous ses systèmes d'information sont arrêtés et que, par exemple, l'entreprise ne peut plus réaliser d'expédition de ses produits, eh bien, elle va avoir un manque à gagner, elle va pas faire de chiffre d'affaires, et ça va être pris en charge par l'assurance cyber.
D'accord, mais est-ce que ces systèmes d'assurance vont aussi fonctionner dans le contexte d'un rançongiciel?
Alors, le contexte de rançongiciel, hein, typiquement, c'est une attaque qui bloque vos systèmes et vous ne voyez plus qu'une seule chose sur votre écran. Généralement, l'écran devient noir et on vous demande de payer un certain montant, généralement qui est un montant en Bitcoin, qui peut parfois être aussi un montant en dollars. Et on vous la promesse quelque part, c'est de dire que si vous payez ce montant, eh bien, vous récupérerez l'accès à vos systèmes d'information et l'accès à vos données. Ce qu'on sait aussi, c'est que finalement, à partir du moment où il y a eu une attaque et à partir du moment où vous avez un intrus qui s'est introduit dans votre système d'information, vous pouvez penser, et généralement vous avez raison de penser ça, que vos données, il les a, avant de les chiffrer et de les bloquer, il les a prises et qu'il a derrière la tête l'idée de les utiliser, de les revendre sur le dark web, surtout s'il s'agit typiquement de données bancaires ou de données personnelles qui peuvent avoir une certaine valeur sur le dark web. Donc voilà le contexte de l'attaque par rançongiciel. Donc l'entreprise ne peut plus fonctionner, elle n'a plus accès à rien. Donc panique évidemment. Et on a très envie, on a l'impression que la solution est devant, puisqu'on a très envie de payer pour récupérer. Là, dans ces cas-là, évidemment, le bon réflexe, c'est d'appeler, ben, si on est assuré, c'est d'appeler son assureur. Des services publics peuvent vous aider, le site cybermalveillance.gouv.fr qui est là pour ça. On a l'ANSSI, on a les CERT aussi, qui sont des dispositifs qui sont là pour vous aider, et vous avez aussi, si vous êtes assuré, vous avez votre assureur. Tous ce qu'ils vous diront, c'est que le paiement de la rançon, c'est vraiment quelque chose qui n'est envisagé que en dernière solution. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire et ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable. Maintenant, dans certains cas, peut-être, et qui sont assez rares, l'entreprise va vouloir quand même payer la rançon et va considérer que c'est peut-être une bonne solution de payer la rançon. Pour te donner un ordre d'idée, le paiement des rançons, ça intervient dans moins, pour nous assureurs qui voyons ce qui se passe, c'est un très petit nombre d'attaques qui terminent par le paiement des rançons. C'est moins de 5% des attaques. Deuxième chose, pour l'assurer, si son assureur lui rembourse le paiement de la rançon, c'est ça de moins qu'il va pouvoir consacrer, lui, à travailler sur la remise en place de son système d'information, sur l'information, éventuellement sur l'information de ses clients qui ont été victimes d'une cyberattaque, autant de choses qui coûtent. Et donc, l'assuré n'a pas non plus intérêt à aller payer une rançon.
L'assurance du risque cyber est encadrée à présent depuis janvier par une loi, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur en France, la LOPMI. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les conditions justement qui sont fixées par cette loi?
Cette loi a dit que l'assurance pouvait rembourser le paiement de la rançon, mais a encadré ses modalités et notamment a soumis ce remboursement à l'obligation de faire un dépôt de plainte. Donc l'entreprise qui est victime de cette demande de rançon doit déposer plainte dans les 72 heures à partir du moment où elle a connaissance de cette attaque. Et si elle ne dépose pas plainte, elle va perdre en fait son droit à demander remboursement de la rançon. Cette disposition vise aussi à pouvoir permettre au pouvoir public, et spécialement à la police, de connaître, en fait, d'avoir connaissance de ces attaques et de pouvoir éventuellement intervenir ou en tout cas que ça alimente son, sa base de données.
Si ce risque est devenu courant, est-ce que ça signifie qu'il est par défaut déjà l'objet d'une assurance qu'on pourrait avoir souscrit, ou alors est-ce qu'elle figure dans une garantie, dans un contrat distinct?
Aujourd'hui, vraiment, l'assurance cyber, c'est une police dédiée. Tous les assureurs ne proposent pas une assurance cyber, mais c'est pas grave, j'ai envie de dire. Une entreprise, même si elle a très envie de rester avec son assurance traditionnelle et que cette assurance ne propose pas une assurance cyber, eh bien, elle peut très bien aller voir une autre assurance qui, elle, fournit une assurance cyber et prendre uniquement une police risque cyber auprès de cette nouvelle assurance. C'est vraiment prévu comme un dispositif qui est très complet. D'abord, ça va commencer par de la prévention et par de l'accompagnement. Quelque part, de la même façon que quand tu vas acheter ton assurance multirisque habitation, eh bien, ton assureur va te dire, si vous habitez au rez-de-chaussée, vous devez avoir des volets, vous devez avoir une serrure 3 points, vous devez, enfin, toute une série, tu vois, de critères de base où, quelque part, on te demande déjà d'assurer toi-même ta propre protection avant d'aller chercher une assurance. Eh bien, en matière d'assurance cyber-risque, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir un diagnostic qui va être fait entre l'assureur, donc qui peut être représenté par un courtier ou son agent général, et l'entreprise qui veut s'assurer. Et on va lui poser un certain nombre de questions pour voir, quelque part, diagnostiquer où il en est et lui demander d'atteindre un certain niveau dans la gestion de sa propre sécurité informatique et également de sa propre sécurité physique. Puisque je rappelle que tu peux aussi avoir être victime d'une cyberattaque si jamais tes locaux sont ouverts, sont très, très faciles d'accès et que, par exemple, les personnes de ton entreprise, des collaborateurs, laissent leurs ordinateurs branchés, leurs sessions branchées et partent déjeuner. Imagine que tu as un plateau complet, tout le monde est parti déjeuner. L'entreprise, ça paraît fou, mais c'était le cas il y a quelques années, n'a pas prévu que les ordinateurs se mettent en veille automatiquement. Et donc, quelqu'un entrerait, se promènerait et se dirait « Ah bah tiens, c'est très facile » et hop, il est sur ton système informatique. Donc ça, tu vois, c'est typiquement de la sécurité physique, sécuriser l'accès à ses locaux, et puis de la sécurité informatique avec un certain nombre de dispositifs qui pour certains sont très basiques. Par exemple, mes ordinateurs se mettent en veille automatiquement. Et puis troisièmement, aussi de la formation de tes collaborateurs. Je leur rappelle que quand ils se lèvent quand ils se lèvent de leur bureau, eh bien, hop, contrôle Alt Sup, je mets mon ordinateur en veille, je ne le laisse pas accessible, même si je me lève pour aller faire une photocopie. Ensuite, si jamais l'entreprise est attaquée, eh bien, dans ces cas-là, l'assurance est là pour accompagner pendant la crise. Donc sur tous les volets qui vont se dérouler, c'est-à-dire aider à identifier l'origine du problème, aider à mettre en place des actions correctives, typiquement supprimer par exemple le programme malveillant qui a été injecté dans le système informatique. Après la résolution, analyser l'incident, voir quelles recommandations doivent être mises en place. Et puis, ce que je te disais, prendre en charge un certain nombre de frais. Typiquement, souvent, quand une entreprise est attaquée, les données de ses clients risquent d'être divulguées. Dans ces cas-là, au titre du RGPD, l'entreprise a l'obligation légale d'en informer ses clients. Et ça coûte cher. Ça veut dire qu'il faut rédiger des courriers, il faut les envoyer. Généralement, on va demander de l'aide peut-être à un avocat pour faire ça bien. Donc ça va être pris en charge également. Ça fait partie des choses qui peuvent être prises en charge par l'assurance. Et puis dernière chose qui est couverte par l'assurance, donc c'est cette fameuse compensation de la perte de marge brute pour compenser donc l'arrêt ou le ralentissement d'activité qui découle de l'attaque.
Pour certaines petites structures, une cyberattaque peut avoir vraiment des effets dévastateurs, voire même malheureusement entraîner la faillite de certaines d'entre elles. Quels seraient selon toi, Estelle, les gestes de cyberbarrière qu'elle pourrait d'ores et déjà mettre en place?
Typiquement, ça veut dire avoir une politique de mise à jour des mots de passe qui soit extrêmement rigoureuse. Ça veut dire traiter les failles de sécurité, les mises à jour de logiciels de façon pareille rigoureuse. Ça veut dire avoir un guide d'hygiène informatique dans son entreprise et puis développer des capacités de détection et de traitement d'incidents au sein de sa propre entreprise. Pour être un peu plus précis et pour ceux qui veulent mettre ça en œuvre, moi je les invite à aller sur le site de l'ANSSI qui a publié en mai 2023 cinq mesures préventives prioritaires avec vraiment des détails pratiques pour expliquer ce qu'il y avait derrière ces mesures. Je pense que c'est très important et après chaque entreprise va mettre ça en œuvre, on va dire, en fonction de sa taille, de ses capacités. Ces cinq mesures, c'est la première, c'est renforcer l'authentification sur les systèmes d'information. Donc, c'est les fameux mots de passe, c'est les connexions à distance par VPN, etc. C'est accroître la supervision de la sécurité. C'est aussi sauvegarder hors ligne les données et les applications critiques. Ça, c'est dans l'idée que si jamais on est attaqué et que, quelque part, l'ensemble de ces données ont été bloquées, ont été cryptées par l'attaquant, eh bien, on n'est pas tout perdu, mais on est hors ligne une sauvegarde qui, même si elle a quelques jours, voire une semaine de retard, sera très, très précieuse pour redémarrer. La quatrième recommandation qui revient à bien se connaître, et ça, c'est toujours très important, c'est établir une liste priorisée des services numériques critiques de l'entité. Savoir ce qui chez moi est absolument critique et fait que je ne peux pas exercer mon activité sans ce service numérique et puis ce qui est plus accessoire et qui fait que finalement on va moins s'y attarder. Et une fois qu'on a identifié ce qui était critique, ça, il faut vraiment mettre toute son énergie dessus pour que ces services numériques critiques soient extrêmement bien protégés. Et dernière chose, c'est encore une fois, si jamais l'attaque survient, avoir un dispositif de gestion de crise qui soit efficace et qui soit adapté à une cyberattaque. Gérer une crise cyber, on va dire, ça n'a rien à voir avec gérer une crise qui est par exemple liée à l'incendie d'un bâtiment. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc, c'est important d'avoir un dispositif de gestion de crise cyber et c'est important de s'entraîner, comme pour toute gestion de crise, donc de faire des exercices réguliers et de s'assurer que chacun dans l'entreprise connaisse son rôle si jamais il y a une crise qui se déclenche.
Ça vaudrait aussi la peine de garder près de soi, scotché près d'un ordinateur, une alerte, quoi faire en cas de virus, en cas d'attaque. Je me souviens très bien que lors de notre visite, que ce soit sur le PHA Mistral ou le porte-avions Charles de Gaulle, il y avait justement ce type de fiche de mise en garde.
Moi, je suis en charge de la gestion de crise dans mon entreprise et typiquement, on a ces petites fiches. C'est aussi, par exemple, quelque chose d'aussi bête que d'avoir une liste avec les numéros de téléphone portables des personnes qui seraient indispensables en cas de crise pour savoir comment les joindre. Parce que si ton système informatique est bloqué, tu n'arriveras à joindre personne par Teams ou par le système téléphonique de l'entreprise. Tu n'arriveras pas à envoyer des mails professionnels puisque tout est bloqué. Donc, connaître le numéro de portable des personnes clés, eh bien, ça peut se révéler extrêmement important et te faire gagner un temps précieux si jamais tu as une crise. Savoir qui tu dois contacter aussi si jamais tu as une cyberattaque. Te rappeler, on parlait tout à l'heure de dire bah, il faut déposer plainte. On disait il faut prévenir l'ANSSI. Il faut prévenir la CNIL si tu as une attaque sur les données de tes clients. Tout ça, c'est une sorte de checklist et c'est exactement ce que tu dis. C'est comme dans un sous-marin. C'est pareil, tu as ta checklist que tu as fait au calme, à un moment où le ciel était bleu, on va dire. Et donc, au moment où la tempête se déchaîne, tu seras bien content d'avoir cette petite checklist qui te permettra de ne rien oublier et de faire face à cette crise. Autre chose qui est vraiment majeure, on l'a un peu dit, mais peut-être que c'est important quand même d'insister là-dessus, c'est le rôle de l'humain dans tout ça. Parce que finalement, ces cyberattaques, les personnes, les collaborateurs de l'entreprise sont les premiers remparts contre les cyberattaquants. Un collaborateur qui est bien formé, qui est bien sensibilisé au risque de cyberattaque, eh bien, je peux vous dire qu'il va donner du fil à retordre aux attaquants. Donc, c'est super important pour une entreprise de sensibiliser ses collaborateurs, de faire régulièrement des piqûres de rappel, de leur faire faire des petits quiz, des petits tests. Un exemple, et c'est quelque chose de très simple, mais c'est typiquement, je rappelle, utiliser un mot de passe différent pour chaque site auquel on se connecte. Ça, c'est même complètement une attitude citoyenne. Parce que si vous faites ça, si vous utilisez bien un mot de passe différent, vous faites en sorte que si un site, n'importe lequel, que ce soit le site sur lequel vous faites vos courses, que ce soit le site sur lequel votre site, votre club de sport, une association, le site du théâtre, peu importe, si jamais un des sites est attaqué, en fait, que font les cyberattaquants? Une fois qu'ils ont récupéré les mots de passe associés à un identifiant, ils se disent « Ah, je vais essayer ce mot de passe et cet identifiant sur plein d'autres sites. » Et généralement, banco, ça marche pour une partie de ces identifiants parce que les personnes ont un peu par flemme, et peut-être qu'on l'a tous un peu fait, utilisé le même mot de passe pour plusieurs sites.
C'est tout à fait ça, et d'ailleurs cette bonne pratique provoque le cloisonnement des espaces numériques qui, à son tour, permet de limiter l'effet domino et la propagation du risque cyber. Donc au final, c'est aussi la vigilance de chacun qui nous protège tous dans le cyberespace. Merci encore à toi, Estelle, pour le temps que tu nous as accordé en cette période chargée de l'année. Je rappelle que tu es secrétaire générale et membre du comité exécutif d'AXA France. Vous pouvez retrouver sur le site d'AXA Prévention d'ailleurs des outils préparés avec la gendarmerie nationale pour se protéger dès à présent du risque cyber, que ce soit en tant que citoyen ou dirigeant d'entreprise. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode et d'ici là, longue vie et prospérité à toi.